Reprenons avec l'exploitation des améthystes. Améthystos vient du grec sans ivresse, car on pensait que porter un cristal d'améthyste protégeait des effets du vin, probablement par mimétisme, car cette gemme a la couleur du vin rouge, ce que dit Théophraste dans le traité sur les pierres au paragraphe 30-31. Il s'agit en fait d'un quartz pourpre utilisé de la fin du prédynastique pour faire des bijoux, des perles, des amulettes. Le cristal s'est formé lorsque les failles dans le granit occasionnées par le mouvement des plaques tectoniques et l'ouverture de la mer Rouge ont été parcourues par des solutions hydrothermales, un peu comme tous les autres cristaux et toutes les autres formations minérales. Ces circulations d'eau chaude chargées de minéraux les ont remplies de quartz, surtout de quartz hyalin, mais aussi d'un quartz transparent que l'on appelle le cristal de roche et d'améthyste, un quartz auquel des impuretés de fer donnent la couleur vineuse. Deux mines principales sont connues dans le désert oriental, celle du Wadi El Oudi et celle proche du Wadi Abu Dieba. Le Wadi El Oudi est situé au sud-est de d'Aswan, que vous voyez ici, et le Wadi Abu Dieba à la latitude, disons, de Safaga, et pas très loin de ce qui sera par la suite le Mont Scodianus. Le district minier du Wadi El Oudi donc, est situé à 25 km au sud-est d'Aswan. Il est formé de trois zones d'extraction associées à trois établissements fortifiés. La mine a surtout été exploitée au Moyen Empire et au Nouvel Empire, mais une partie a continué de l'être à l'époque romaine. Sur cette question, il faut se reporter à un article de Shaw, de Ian Shaw et de Jameson, paru dans le Journal of Egyptian Archaeology en 1993. La mine d'Abu Dieba est-elle mieux connue grâce à une prospection récente de James Harrell et Steve Sailbottom, qui ont publié un article détaillé dans le bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale en 2006, article qui s'intitule « The Ptolemaic to Early Roman Amethyst Quarry at Abu Dieba in Egypt's Eastern Desert ». Le district minier, en fait, a été découvert en 1914 et il s'étend sur 3 km². Il est caractérisé par plusieurs centaines de tranchées, dont certaines mesurent plus de 100 mètres de long et qui sont parallèles entre elles et suivent des veines de quartz. Alors vous voyez ici la localisation. Nous sommes donc au sud-ouest de Safaga, au sud du mont Scodianus, qui est situé ici. Là, on voit le Wadi Baroud. Et donc en plein au cœur des montagnes primaires de la chaîne arabique. Et ici, une vue un peu plus détaillée du Wadi en question, avec un établissement principal avec des habitations ici et un temple, et puis un autre temple dans la partie plus à l'est du Wadi, et un autre établissement d'habitation. Et partout ailleurs, là où on voit tous les points, il s'agit de zones d'extraction et de tranchées. Les mineurs ont rejeté le quartz sur les côtés et ont conservé les améthystes, rejetant bien entendu les améthystes qui étaient trop pâles, et peut-être récupérant également du cristal de roche à l'occasion. Le site est aujourd'hui très détérioré par les pillages et des destructions récentes, comprend donc un centre principal d'habitation d'une douzaine de bâtiments, dans les ruines desquels 9 inscriptions grecques sur grès, une stèle, une table d'offrande ont été trouvées. Ces inscriptions montrent que l'établissement principal, servant de logement et de poste de contrôle des officiels, était donc sous contrôle de l'administration royale. Une inscription connue par le recueil d'André Bernand sous le numéro 59 dans le l'ouvrage qui s'appelle « Pan du désert ». Cette inscription, donc 59, est datée du règne de Ptolémée VI Philométor et de Cléopâtre II, donc entre 175 et 170 avant Jésus-Christ. Les autres textes sont aussi d'époque ptolémaïque et sont principalement des dédicaces à Pan du Bon Voyage, à Isis, à Harpocrate et à Sarapis. Mais la céramique trouvée lors des prospections montre que l'exploitation de la mine a duré au moins jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ et peut-être au début du 2e siècle, selon les auteurs de la publication. Toutefois, les céramiques qui sont publiées me semblent, elles, toutes datables du 1er siècle. Les extractions semblent avoir été saisonnières, d'abord organisées par le pouvoir royal, puis à l'époque romaine, peut-être laissées à l'initiative privée, dans la mesure où le gisement n'a jamais livré de textes sur Ostraca que l'administration impériale générait en grande quantité. Les inscriptions prouvent qu'il y avait là un sanctuaire dans les bâtiments administratifs au cœur du gisement, mais un autre sanctuaire, comme je vous l'ai dit, plus petit, est situé à l'est dans le Wadi. Et vous voyez ici son plan, il y a un tout petit naos avec un couloir qui en fait le tour. Malheureusement, il n'a pas livré d'inscription et on ne sait donc pas à qui il était dédié. En résumé, l'extraction des améthystes a commencé sous forme d'expédition officielle au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, a duré par intermittence jusqu'au 1er siècle avancé. L'abandon est probablement dû au remplacement des améthystes du désert oriental par celles qui furent importées d'Égypte à partir du 1er siècle après Jésus-Christ et dont Pline, au livre 37, paragraphe 121-122, écrit qu'elles étaient d'une qualité nettement supérieure. Ces importations de gemmes probablement moins coûteuses que des émeraudes a dû rapidement remplacer les pierres locales et entraîner la désaffectation de la mine. Donc, nous avons vu l'ensemble des ressources minières, les métaux d'une part et les gemmes de l'autre, et nous allons maintenant en venir à un large survol, avant de rentrer plus avant dans les détails par la suite, des carrières de pierres à bâtir et de pierres ornementales. Pour les pierres à bâtir et les pierres ornementales, la palette d'emploi est très vaste, depuis les blocs de parement jusqu'aux colonnes, en passant par les éléments architectoniques, les bassins et les sculptures. À l'époque romaine, ce sont principalement les roches des massifs anciens qui ont été exploitées, car leur particularité de couleur, comme le porphyre rouge du Djebel Doran, ou de solidité, comme le granit du mont Claudianus, les rendait uniques. Mais auparavant, d'autres roches étaient déjà exploitées en tant que pierre à bâtir et en tant que pierre ornementale. Sur cette question, nous disposons d'une littérature assez abondante, notamment un ouvrage de Dietrich et Rosemary Klemm paru en 2008 qui s'appelle « Stones and Quarries of Ancient Egypt », qui est en fait la réédition d'un ouvrage paru en allemand précédemment, paru à Londres, et qui donne une synthèse très vaste de toutes les carrières d'Égypte, et non seulement celles du désert oriental, mais aussi celles de la vallée. Et puis, juste après, un peu plus récemment, James Harrell et Stormir ont publié en 2009 une courte synthèse, bien à jour et bien illustrée de photos, qui est directement disponible sur Internet, et dont je tire cette carte qui vous montre l'ensemble des carrières connues à la fois le long de la vallée, ils sont ici, ce sont surtout des carrières de grès et de calcaire, et dans le désert oriental où nous avons principalement des carrières de granodiorite et de roches dures colorées. Ces carrières donc se divisent en carrières de moellons à bâtir et en pierres colorées de grand prix. Les pierres à bâtir étaient extraites de plus de 200 carrières qui ont été donc répertoriées principalement le long de la vallée du Nil ou en bordure occidentale du désert oriental dans des grès et des calcaires. Beaucoup d'entre elles sortent de notre cadre car directement liées au Nil et donc assez faciles d'accès et directement exploitées par les habitants. Mais certaines sont situées sur la côte de la mer Rouge. Il existe par exemple une carrière d'anhydride de gypse au Wadi El-Ambat qui a été publiée par James Harrell en 2010 et qui est située près de Bérénice. Si on rentre un peu plus dans les détails, nous pouvons commencer par les carrières du Wadi Hammamat. Dans le Wadi Hammamat, on a extrait depuis l'époque prédynastique une pierre que l'on appelle le Meta Grewake et que les anciens Égyptiens appelaient le Beren, qui est cette pierre sombre, noire, verdâtre, foncée, que vous voyez ici. Les Latins l'appelaient lapis basanites. Ptolémée désigne la montagne, Ptolémée le géographe, désigne la montagne sous le nom de Basanitou Litou Horos, c'est-à-dire la montagne de la pierre basanite. Et Pline, dans l'Histoire naturelle, au livre 36-58, puis en 147 et 157, indique qu'il connaît bien la provenance et les qualités de cette roche en écrivant quelle est la couleur du fer et sa dureté et en décrivant ses usages en médecine. C'est en fait une roche sédimentaire qui s'est formée de dépôts marins composés de mica, de feldspath et de quartz, cimentés par un sédiment argileux composé de mica fortement métamorphisé. On en a tiré d'abord des tablettes à écraser, puis au temps pharaonique, surtout des pierres pour faire des statues et des sarcophages. Mais l'exploitation a continué à l'époque romaine, comme nous allons le voir. De couleur noire à vert foncé, elle symbolisait le printemps, le renouveau, la régénération. Elle était donc particulièrement adaptée au sarcophage. À côté de cette pierre très prisée pour la sculpture notamment, on a exploité aussi une brèche appelée hekatonlithos en grec, que vous voyez ici, qui est en italien breccia verde d'Égypte, qui a été utilisée pour des sarcophages royaux à la fin du Nouvel Empire et à la Basse Époque, et sous l'Empire romain, pour tailler des colonnes, des bassins et des plaquages, plaquages notamment utilisés dans les pavements en opus sectile. Le Wadi Hammamat était aisé à atteindre depuis Coptos, et les hommes savaient qu'ils pouvaient trouver de l'eau sur la route, à mi-chemin, dans l'oasis de la Keïta, qui est située juste ici, et à 5 km des carrières du Wadi Hammamat, au Bir de Bir Fawarir, qui, à l'époque gréco-romaine, s'appelait Persou, et où se trouvaient des mines d'or sur lesquelles nous reviendrons. Plus de 400 inscriptions pharaoniques et hiéroglyphiques et 150 en démotique et en grec ont été gravées sur les parois rocheuses du défilé et des carrières. Alors, ici, sur cette carte empruntée à Dietrich Klemm, on voit le passage à travers le Wadi Hammamat et la zone où se trouvent les concentrations de carrières, c'est-à-dire ici, de ce côté, et ici, notamment les carrières romaines sont sur le côté occidental de la paroi rocheuse, et le côté oriental, pardon, de la paroi rocheuse, comme nous le verrons par la suite. Ici se trouve, au centre, un petit sanctuaire qui date de l'époque de Tibère, sur lequel nous allons revenir, et toute cette zone est évidemment couverte d'exploitations de diverses périodes. La partie exploitée pour le grès waqueux est ici, et toute la partie destinée à la brèche verte est plutôt dans la partie inférieure, enfin méridionale, du Wadi. Lorsqu'on débouche du Wadi ici, on arrive dans le Wadi Fawarir, Wadi El Sid, où se trouvaient les puits et les mines d'or. Donc, toute cette zone a livré beaucoup d'inscriptions d'époque pharaonique, en hiéroglyphes, et quelques-unes, comme je l'ai dit, en démotique et en grec. Elle se trouve surtout sur le flanc sud-est de la montagne, qui n'a pas été exploité à l'époque pharaonique, car probablement réservé en tant que domaine du dieu Mine de Coptos, qui était le seigneur du désert. Ces inscriptions, dont l'arc chronologique est très vaste, entre la 4e dynastie, vers 2500 avant Jésus-Christ, jusqu'à Maxime, qui était le fils de Maximin Ier de Thrace, une inscription datée de 238 dans notre ère, ces inscriptions sont surtout des dédicaces à Mine, à Isis, à Horus, à Harpocrate, et elles donnent de nombreuses précisions sur les expéditions envoyées par les pharaons, principalement. Durant l'Ancien Empire, par exemple, l'architecte en charge de construire la pyramide de Pépi Ier, qui a régné de 2393 à 2336 avant Jésus-Christ, dirigea une expédition dans les carrières pour extraire la pierre utilisée pour le sarcophage et pour certaines parties du temple funéraire. Une inscription publiée par Goyon en 1949 sous le numéro 21. Au Moyen-Empire, une inscription également publiée par Goyon sous le numéro 61, datant de Sésostris Ier, dit que 17 000 hommes ont été envoyés pour extraire 180 statues et 60 sphinx qui ont été transportés dans la vallée. Un peu plus tard, Mentouhotep III organise une expédition de 3 000 hommes et Mentouhotep IV envoie 10 000 hommes pour extraire une pierre pour son sarcophage et son couvercle et aussi pour creuser un puits. Sous les Ramessides, les carrières et les mines d'or voisines sont très largement exploitées. Le papyrus de Turin, déjà cité, daté de Ramsès IV, donc vers 1163-1156 avant Jésus-Christ, donne une carte des mines d'or et des carrières de pierre avec des indications de stèles, de puits, de citernes et de cabanes de mineurs. Ici, vous voyez la reconstitution de James Harold Brown, où on voit le passage donc, dans le Wadi Hammamat et les emplacements des carrières et un peu plus loin des mines. Sous la domination perse, qui commence en 525 avant Jésus-Christ, Darius envoie pas moins de 7 expéditions pour extraire des pierres et une statue de ce même roi, Darius, trouvée à Suse et taillée dans du Bérel. Les dernières inscriptions pharaoniques sont de l'époque de Nectanébo II, c'est-à-dire qui a régné entre 359 et 341, et elles se trouvent sur une paroi rocheuse dite chapelle de Nectanébo, qu'on voit sur cette diapositive, où des marchands romains, plus tard, ceux qui étaient engagés dans le grand commerce avec l'Inde, ont écrit leur nom. C'est le cas, par exemple, du célèbre Caius Petitius. À l'époque pharaonique, comme nous l'avons vu, la pierre était exploitée soit en cherchant un bloc déjà éboulé et de bonne dimension, soit en insérant des leviers dans les failles de la roche, qui est une roche qui est assez faillée, en fait. La première technique est bien illustrée, celle de rechercher un bloc, par deux inscriptions, dont l'une dit que l'on a cherché un bon rocher pendant 8 jours, et l'autre annonce qu'on a découvert un bloc utilisable pour un couvercle de sarcophage. À l'époque romaine, en revanche, les carriers ont utilisé des coins de fer et des rampes pour descendre les blocs, comme dans toutes les autres carrières du désert. Sur le côté sud-est du Wadi, alors ici vous voyez un exemple d'un bloc en cours d'être fracturé en deux et vraisemblablement il a cassé et donc on l'a abandonné. Vous voyez ici des emplacements des coins et de tout petits trous qu'on appelle la technique du pointillé qui permet en frappant des pointes à l'intérieur de ces trous, de créer des lignes de fracture. Donc ça, c'est une technique typiquement romaine qui n'avait pas été employée jusqu'alors, et ça a permis d'exploiter des bancs plus compacts situés dans la partie sud-est du gisement, la partie qui jusqu'alors était principalement réservée aux inscriptions et aux dédicaces aux dieux Mine. Et on voit ici la rampe qui permettait à l'époque romaine, de descendre les blocs jusqu'au Wadi, rampe qui permet d'accéder aux carrières qui sont situées plus avant dans la montagne. La technique plus avancée de l'époque romaine a donc permis d'exploiter à nouveau la partie centrale du gisement, qui était presque abandonnée, et à une plus grande profondeur. Et dans la partie est, donc d'ouvrir des carrières plus vastes au sommet de la montagne. Dans la partie sud de la carrière, la brèche verte, comme j'ai dit, qui s'appelle en italien breccia verde antica, qui était utilisée certes depuis le début du néolithique, a été à nouveau exploitée à l'époque romaine pour notamment des petites colonnes et des bases. Mais en général, les caractéristiques de la roche, même dans les parties qui ont été exploitées par les Romains, et notamment les nombreuses failles, empêchaient d'extraire de très grands blocs. Pline, au livre 36, paragraphe 58, dit très clairement, je cite, « Nulle part on ne trouve de plus gros bloc que celui qui est dédié dans le temple de la paix, l'empereur César Auguste Vespasien, représentant le Nil autour duquel jouent ses 16 enfants. Par ces derniers sont symbolisés les 16 coudées que représente l'accroissement maximum du fleuve en crue. » On voit donc que, même malgré les techniques de l'époque, on pouvait difficilement faire autre chose que des statues ou des sarcophages. Les carriers de la période romaine habitaient dans un groupe de cabanes construits sous Tibère et qui ont été fouillés de 1987 à 1988 par Anigas de l'Institut français d'archéologie orientale. Les constructions irrégulières sont groupées de part et d'autre d'une chapelle de plan rectangulaire qui est dédiée à Pan, c'est-à-dire à Mine. Alors vous voyez ici la chapelle centrale, ici une photo qui date de 1997, donc 10 ans après les fouilles, donc l'herbe un peu repoussée, avec le naos dans la partie centrale, et de part et d'autre, deux groupes de pièces qui ont été ajoutées et sans plan véritablement régulier. En effet, en 18 après Jésus-Christ, Publius Juventus Agathopus, directeur de tous les métallats d'Égypte, comme il s'annonce, et affranchi de Publius Juventus Rufus, préfet de Bérénice, et le fameux archimétallarque des gisements d'émeraude, topaz et toutes les mines et carrières d'Égypte, donc Agathopus a fait construire la chapelle. Et nous verrons que ces deux personnages sont aussi à l'œuvre dans les carrières de granit du mont Sophiatès. Autour de la chapelle, qui marque en quelque sorte la réouverture, ou en tout cas un moment fort d'exploitation des carrières sous l'autorité impériale et sous contrôle de l'armée, les carriers ont donc construit des habitations. Il y a 13 pièces sur le côté nord-est et 10 sur le côté sud-ouest. Vous voyez ici le temple avec le petit naos ici et l'inscription qui est autour, et les habitations qui ont été construites de part et d'autre, habitations qui comprennent en général une seule pièce avec des banquettes en pierre qui, évidemment, étaient recouvertes de matelas et qui servaient à la fois aux carriers et aux soldats d'habitation. Les inscriptions et les ostracas trouvés dans ces habitations fixent les bornes de l'occupation et de l'exploitation des carrières entre 18 après Jésus-Christ et 68 après Jésus-Christ. Les 41 ostracas qui ont été trouvés montrent que l'agglomération, bien que non fortifiée, regroupait des carriers et des militaires chargés de leur protection. La période d'intense activité correspond d'ailleurs à celle de l'emploi principal de la lapis basanites à Rome. Par la suite, la pierre sera encore utilisée jusqu'au IIIe siècle romain, mais en moindre quantité. Elle servait notamment à sculpter des statues, telles celles d'Hercule et celles de Bacchus, qui proviennent du palais du Flavien sur le Palatin, mais qui sont aujourd'hui conservées au musée de Parme, ou celles de Sérapis, aujourd'hui conservées à la Villa Albani. La pierre était aussi utilisée pour tailler des bassins, dont ceux hexagonaux conservés au musée du Vatican ou au musée d'Alexandrie, et également pour faire des vasques, dont vous voyez ici un fragment, vasques dont les bordures étaient décorées. La breccia verde antique, elle, était surtout utilisée, comme je l'ai dit, pour tailler des colonnes, certaines assez grandes, dont on a des exemples à Rome, comme vous voyez ici, conservées dans le Palazzo dei Conservatori, mais aussi à San Vitale de Ravenne, à Constantinople, où il y en avait dans l'église des saints apôtres, qui sont aujourd'hui au musée, et en remploi au Caire, par exemple dans le mausolée de Mohamed el-Nasser, ainsi qu'à Cordoue, dans la grande mosquée, évidemment là encore en remploi, ce sont des colonnes qui ont été récupérées dans des monuments antiques et réutilisées par les conquérants arabes lorsqu'ils ont construit leurs monuments et leurs mosquées. Quelques blocs ont été aussi utilisés pour faire des coupes et des statues, comme une statue assez connue d'un prisonnier assis qui est conservée au musée du Louvre. Donc, pour résumer, une exploitation qui est surtout concentrée au 1er siècle après Jésus-Christ et qui, semble-t-il, diminue très fortement par la suite. Venons-en maintenant à la granodiorite. La granodiorite a été exploitée surtout à l'époque romaine et dans la partie centrale du désert oriental, entre Kéna et Safaga. Vous voyez ici, sur cette photo, donc là, nous avons vu tout à l'heure le Djebel Zeyt ici, le Ras Manas ou Bérénice, et vous voyez que nous sommes dans la partie centrale du désert oriental, l'endroit du coude du Nil, où se trouvaient les villes de Koptos, porte du désert, comme nous l'avons vu l'année dernière, mais aussi de Kéna, la nouvelle ville qui était directement liée à l'exploitation des carrières. Cette granodiorite donc a été exploitée dans plusieurs lieux, beaucoup de carrières, mais quand même quatre lieux principaux, que sont le mont Slodianus, le mont Sophiates, le Tibériané et Domitiané. Sur cette diapositive, je vous ai mis des exemples des granites qui viennent de ces carrières. Comme vous voyez, le granit se ressemble un peu partout, mais avec de légères différences. Le granit dit Augusteum, exploité au mont Sophiates, et un granit avec beaucoup de blanc et de petits grains gris et verts. Le Tibérianum, qui a été exploité dans le Wadi Baroud, au contraire, contient des cristaux noirs beaucoup plus importants et des cristaux blancs aussi. Le Clodianum est plus équilibré, blanc et gris, comme le Tibérianum, mais avec un grain beaucoup plus fin. Et le granit de Domitiané, et contient, lui, beaucoup plus de grains noirs et gris. Ces granites sont des roches incluant des micas, des feldspathes, des quartz, qui se forment en grande profondeur par refroidissement du magma. Elles montrent diverses nuances de gris vert, de gris noir, et furent particulièrement recherchées pour les grands monuments que les empereurs romains, à partir de Tibère, firent édifier à Rome. Et également dans certaines villes d'Italie, comme nous le verrons par la suite. En effet, si le granit n'est pas rare sur le pourtour méditerranéen, il est souvent faillé, ce qui le rend impossible à utiliser pour tailler de grands monolithes, comme les énormes colonnes que réclamaient les architectes chargés par les empereurs d'édifier les palais impériaux, à commencer par la Domus Tiberiana, puis la Domus Transitoria, puis la Domus Aurea de Néron, puis le palais des Flaviens, et les grands monuments publics tels que le Forum de Trajan, le Panthéon d'Agrippa, d'Agrippa refait par Adrien, et le Temple de Vénus et de Rome, édifié par Adrien et Antonin. La particularité du mont Slodianus est de fournir ce granit exceptionnel, ce qui explique son exploitation malgré des difficultés extraordinaires. Outre le complexe du mont Slodianus et de ses satellites comme Baroud, Uyut, Shegilat et Domitiané, que je détaillerai dans les prochains cours, le granit a été exploité dans plusieurs autres carrières moins importantes qu'il faut mentionner. La première, probablement la plus ancienne ouverte par les Romains, est celle du mont Sophiates, dans un secteur aujourd'hui appelé Wadi Sana, Wadi Vikala. Le nom antique est attesté par une inscription découverte au tout début du XXe siècle dans le sanctuaire de Pan, situé en face du bâtiment administratif au pied des carrières. Le texte, publié plusieurs fois, notamment par André Bernand dans l'ouvrage « Pan du désert » sous le numéro 51, est une dédicace à Pan réalisée le 1er du mois de Poni, dans la 40e année du règne d'Auguste, c'est-à-dire en 10-11 après Jésus-Christ. Alors que Publius Juventus Rufus était tribun de la 3e légion cyrénaïque. Le sanctuaire de Pan Aufiates a été dédié, comme je l'ai dit, par Publius Juventus Agathopus, son affranchi, procurateur, administrateur et bienfaiteur, dit-il, de toutes les mines d'Égypte. Le texte est suivi d'actes d'adoration de Ptolémaïos, curateur de la cohorte de Florus, donc qui représente l'armée, et qui était évidemment en charge du bâtiment, et de Mercis et de Sauter, deux architectes qui étaient en charge du travail. Le texte est essentiel sur plusieurs points. D'une part, il donne le nom de la carrière, la date de fondation du temple, et probablement de tout le complexe, et il donne le nom de l'affranchi, publié sur Juventus Agathopus, qui dirigeait l'exploitation des mines sous la haute autorité du préfet de Bérénice. L'entreprise est donc décidée, exécutée par le pouvoir impérial, et il faut probablement y voir la volonté d'Auguste, ou plutôt de ses conseillers et architectes, de rechercher, à la manière des pharaons, des pierres exceptionnelles dans le désert oriental d'Égypte. Cette politique de prospection s'intensifiera dans les années suivantes, sous le règne de Tibère, et portera à la mise en exploitation de plusieurs autres carrières, et notamment celle de Tibériané. C'est la raison pour laquelle on peut identifier la pierre extraite de la carrière du mont Sophiates avec le marmore Augusteum que mentionne Pline dans l'Histoire naturelle, livre 36, paragraphe 55. Et il écrit dans ce passage que le marmore Augusteum et ensuite le marmore Tibereum ont été découverts pour la première fois en Égypte sous les principats d'Auguste et de Tibère. Je cite, « Il se distingue de l'ophite qui a des taches semblables à celles d'un serpent, d'où vient son nom, par un groupement différent des taches. Le marmore Augusteum a des veines ondées en forme de tourbillon, celles de Tibère les a blanches, disséminées et non pas ondées, ce que nous avons vu tout à l'heure. » On ne trouve que très peu de très petites colonnes en ophite. Il en existe de deux sortes, la première est tendre et blanche, molle et candidie, dit-il, la deuxième est dure et noirâtre, nigritans douri. Et il ajoute que toutes les deux sont réputées guérir les maux de tête et les morsures de serpents. On retiendra pour notre propos que la variété blanche et tendre est probablement une sorte de stéatite, alors que la variété noire est un granit et probablement celui qu'on vient de voir. Au dire de Pline, généralement très bien informé, ces variétés de pierre ne sont pas à proprement parler des ophites, mais s'en rapproche, et c'est peut-être pour cela que la carrière du Wadi Semna Wadi Fikala a été baptisée Mons Ophiates. Quant à la carrière du marmore Tibereum, nous verrons qu'elle a été identifiée à Baroud dans le complexe du Mons Lodianus, et les ostracas montrent en effet qu'elle s'appelait Tibériané. L'appellation de marmore Augusteum est cohérente avec la mise en exploitation à la fin du règne d'Auguste. Ce marbre est techniquement ce que l'on appelle aujourd'hui un gabbro, une roche primaire vert foncé contenant des minéraux de pyroxène, amphibolite, chlorite et des veines de quartz. Il a été utilisé pour des colonnes, des corniches, des plaquages et notamment pour des dallages et pour des pièces plus spécifiques telles que des bassins et des piédestaux, aussi bien à Rome, à Pompéi qu'à Herculanum. Mais comme le dit Pline, et nous allons le voir pourquoi, on ne pouvait pas tirer de grands blocs de ce marmore Augusteum. La roche Ophite, donc Ophites Lithos, est aussi citée par Lucain dans la Pharsale et par Stas dans les Sylvae, ainsi que par Martial, et puis par Doscoride dans le De Materia Medica 562, par Denis le Périégète dans la description du monde inhabité à la ligne 1013. Mais la confusion avec la véritable ophite et l'existence de la variété blanche et tendre, donc de la stéatite, rend improbable, ou du moins peu sûr, l'utilisation de ces textes pour décrire l'emploi de la roche du mont Sophiates égyptien. Donc je n'en tiens pas compte ici. En revanche, d'autres inscriptions trouvées sur le site se rapportent à son exploitation, celle que l'inscription numéro 52 du recueil de Bernan, qui est datée de Tibère, et l'inscription 53, qui, elle, date d'Antonin le Pieux. Cette inscription ne provient pas exactement du complexe du Wadi Semna, Wadi Fikala, bien qu'elle provienne du Wadi Semna. Elle a en effet été trouvée par Léo Tregenza en 1950 dans un autre site romain situé près de la mine d'or du Wadi Semna, à 10 km au nord-ouest de la carrière. Le texte a été étudié en détail par Hélène Cuvini dans un article du bulletin d'archéologie orientale, et il s'agit d'une dédicace faite par Ulpius Himerus, qui n'est pas préfet de Bérénice, comme on l'a longtemps pensé, mais procurateur des mines, comme l'était Marcus Ulpius Crésimus avant lui. Ulpius Himerus devait être un affranchi de Trajan ou le fils d'un affranchi de Trajan. Il s'inscrit donc parmi les procurateurs des mines qui, au moins jusqu'à la fin du IIe siècle, géreront les mines du désert oriental pour le compte de l'empereur. Le nom d'Ulpius Himerus, avec son titre de procurator metallorum, donc le procurateur des mines, est attesté par des ostracas du Mons Claudianus, dont l'ostracon appelé Oclode inventaire 7737, qui est une lettre adressée à Athénodoros, lui-même désigné comme tabellarius himerum epitropou, c'est-à-dire agent comptable du procurateur Himerus. Selon Tregenza, l'inscription provient d'un poste militaire romain, ce qu'on appelle un présidium, qui était installé sur une mine d'or abandonnée. Ce poste pourrait donc faire partie des relais établis sur la route entre le Mons Ophiates et le Nil, et donc pourrait attester que la carrière était encore exploitée sous Antonin le Pieux. L'inscription porte en effet la mention du préfet d'Égypte Lucius Munatius Félix, qui exerça ses fonctions entre 150 et 154 de notre ère. Comme nous allons le voir, les prospections récentes du site ont donné des résultats compatibles avec cette chronologie, mais dans ce cas, l'inscription serait le jalon quasiment terminal de l'exploitation du Mont Sophiates, car aucun mobilier trouvé dans les carrières et dans l'habitat ne paraît postérieur au milieu du IIe siècle. En effet, au cours des années 1997-2000, une équipe américaine, toujours composée de Steve Sidebottom, de Hans Barnard et de James Harrell, assistée pour l'étude céramique par Robert Attenberg, qui était venu ici même il y a 2 ans, a prospecté, cette équipe a prospecté et relevé les vestiges de toute la région. Ils ont rendu compte de leur découverte dans un article publié en 2001 dans le Journal of Egyptian Archaeology. Le site, en fait, comporte 3 pôles. Un praesidium qui comportait un hydromas, c'est-à-dire un puits fortifié, gardé par l'armée, et situé au confluent du Wadi Umvikala et du Wadi Samna. Un habitat de carrier, ici, comportant une citerne, des pièces d'habitation et un sanctuaire, situé à 2 km en amont, dans le Wadi Umvikala, donc en remontant le Wadi ici, et 13 carrières de gabbro qui sont dispersées tout autour de cet habitat-là. L'administration romaine a d'abord fait creuser un puits dans le confluent des 2 wadis. Selon Sidebottom et ses collaborateurs, un premier établissement non fortifié aurait été creusé, aurait été établi autour du puits, c'est-à-dire ici. Ce qui est possible dans la mesure où il semble que les postes militaires du début du 1er siècle ne semblent pas fortifiés. J'ai cité il y a 2 ans l'exemple de Zerka I que j'avais fouillé sous le fort Flavien de Maximianon. Et c'est aussi le cas de l'établissement de carriers et de militaires des carrières du Wadi Hammamat que nous venons de voir. Dans une époque postérieure, qui n'est pas datée par l'équipe américaine, mais que les rapprochements morphologiques me font attribuer aux Flaviens, une forteresse a été bâtie avec une façade rectiligne et des tours d'angle semi-circulaires, ainsi qu'une porte ouvrant au sud. Le plan semi-circulaire de la partie arrière est similaire à celui du fort du Wadi Abu Khoyeya, l'ancien Vétus Hydroma, et pourrait être dû à l'adaptation du plan au puits qui préexistait. Dans son état final, le présidium mesurait 56 mètres de long par 43 mètres de large. Il était défendu par 7 tours et à l'intérieur, on trouvait 21 pièces ouvrant sur la cour centrale et une vingtaine de pièces autour du puits. Par comparaison avec les autres carrières, on peut penser que les militaires devaient séjourner dans ce présidium et que les carriers étaient logés au plus près des carrières, soit plus au nord, dans le Wadi Umvikala, où se trouve l'ensemble des carrières et où se trouve cette construction qui a été interprétée curieusement par les Américains comme une sorte de caserne qu'ils appellent Principia. Je rappelle que le terme Principia désigne en fait le bâtiment central d'un camp militaire où se trouve l'état-major, les bureaux et le sanctuaire. Or, il n'y a rien de tel ici. Il existe seulement un long bâtiment qui mesure 36 mètres de long par 11 mètres de large, que vous voyez là. Donc, ils ont appelé, à mon avis, à tort Principia, et qui est situé sur le flanc ouest du Wadi. Il est certes entouré par un mur assez élevé, que vous voyez ici, assez bien conservé, qu'on peut assimiler à un rempart, et qui est d'ailleurs parcouru par un chemin de ronde auquel on accède par un escalier interne que vous voyez dans la partie méridionale. Il s'agit donc d'un habitat fortifié, mais comme vous le voyez, il n'y a pas de tour de défense. C'est donc un habitat qui était conçu pour résister à une attaque de nomades, peut-être pendant quelques heures, en attendant l'arrivée d'un détachement militaire stationné dans le présidium voisin. Il est évident qu'un détachement de quelques soldats était préposé à la garde des bâtiments, mais pour l'essentiel, comme au Mons Claudianus, ce sont les carriers eux-mêmes qui devaient y résider. Le bâtiment a été construit en deux étapes, une première qui comporte la citerne, et puis une deuxième étape qui n'est pas datée, qui est un ajout dans la partie nord. Là, vous voyez ici, la partie sud, l'entrée, l'escalier et la citerne, que l'on peut voir aussi sur cette photo prise par l'équipe américaine. La citerne en pierre, avec un parement intérieur de briques recouvert d'un enduit de chaux, pouvait contenir environ 9000 litres d'eau qui étaient apportés par des norias de chameaux et d'ânes depuis le puits du présidium situé à quelques kilomètres. Il fallait un convoi d'une centaine d'ânes pour remplir la citerne. À l'ouest du bâtiment se trouve une aire de travail des blocs extraits des carrières et au sud, 13 cabanes en fer à cheval qui pourraient être des abris de travail. Donc vous voyez ici, dans ce secteur-là, les abris de travail, des cabanes aussi qui ont pu être habitées par des carriers dans les moments de grande exploitation. À l'ouest du bâtiment, sur le flanc oriental du Wadi, se situe le sanctuaire de Pan d'où proviennent les inscriptions. Il comporte deux pièces éclairées par des fenêtres étroites et on accédait à la pièce sud, la mieux conservée, par une rampe, ce qui est assez caractéristique des sanctuaires de cette époque-là. Les fronts d'extension, eux, ont été répertoriés par l'équipe américaine qui a compté jusqu'à 13 carrières équipées de rampes de descente de blocs. Les blocs étaient descendus. Donc, vous les voyez ici, elles sont tout autour de l'établissement. Les blocs étaient descendus des zones d'extraction à l'aide de cordes et de traîneaux avant d'être placés sur des chariots depuis des quais de chargement. La plus longue rampe, la numéro 38, mesure 1 km de long et elle dessert plusieurs carrières. Sur ces rampes, on peut voir encore des blocs qui étaient prêts à être chargés ou des blocs qui ont été abandonnés parce qu'ils présentaient des défauts. Sur cette photo, vous pouvez voir un bassin en cours de taille et quelques chapiteaux et bases de colonnes en partie dégrossis. Il fallait dégrossir les objets sur place, enfin les blocs sur place, afin d'alléger les blocs de toutes les parties inutiles et aussi de voir les défauts des blocs en cours de travail et donc pouvoir les remplacer tout de suite. À la différence du Mons Claudianus et du Mons Perfirites, les trous de coin en ligne destinés à séparer les blocs de la roche mère sont rares Oumons ou Phiatès, comme la roche était faillie, on enfonçait des coins et des maramines dans les failles. Il y a quelques exemples de techniques de pointillé, mais principalement, on a donc extrait les blocs avec principalement des baramines. L'équipe américaine écrit que le puits du Wadi Semna a été creusé d'emblée et que les carriers ont d'abord exploité le gabbro dans les carrières 5 et 28, les plus proches du puits, puis ensuite l'exploitation se serait déplacée plus au nord et c'est alors que l'on aurait construit les bâtiments du Wadi Umvikala. On peut douter de cette chronologie relative et absolue, car aucun des fronts de taille n'est daté intrinsèquement et que leur ordre d'exploitation peut avoir été tout à fait aléatoire, comme on a l'impression qu'il l'est au Mons Claudianus. Et surtout, il me paraît probable que la grande inscription de 11 après Jésus-Christ marque le début de l'exploitation. Elle est la dédicace du sanctuaire à Pan, seigneur des lieux désertiques, et les architectes ont signé l'acte d'adoration. Je pense donc que l'on a affaire à un binôme puis village de carriers, nécessité d'une part par le besoin en eau, on n'avait pas dû en trouver dans la partie amont du Wadi Umvikala, et d'autre part par l'intérêt pour les ouvriers d'habiter au plus près des carrières afin de minimiser les déplacements. Un schéma analogue se trouve à Umbalad Kenelatomia, et j'y reviendrai. D'une façon générale, les datations de la durée d'occupation des sites est donnée par la céramique, vous voyez là, trouvée en surface, et qui couvre principalement le 1er et le début du 2e siècle. Ce sont des céramiques d'Assouan, des céramiques culinaires, des gargoulettes et des amphores égyptiennes de la région de Coptos, ainsi que quelques amphores importées, dont des amphores Dressel de 4 contenant du vin de Cilicie et des amphores de Chypre, ainsi qu'une amphore de Tripolitaine, identifiée comme une amphore à huile, mais que je crois être une Tripolitaine 2 destinée au transport du vin. Quoi qu'il en soit, au vu du mobilier publié, aucun vase n'est postérieur au milieu du IIe siècle, et donc l'inscription du puits Cimérus que j'ai évoqué en commençant marque peut-être la fin de l'exploitation, si tant est qu'elle ait quelque chose à voir avec les carrières de ce district précisément, ce dont on peut éventuellement douter. L'abandon de la carrière est probablement dû à la qualité de la roche et à ses nombreuses failles. Comme je l'ai dit, on ne pouvait en tirer que des blocs de moyenne dimension ou des plaquages, à la limite des trapézophores, c'est-à-dire des pieds de table décorés, comme dans cet exemple trouvé à Rome. Mais, comme le dit Pline, on ne pouvait pas en tirer de grandes colonnes. De ce point de vue, le Mons Ophiatès est surclassé par le Mons Claudianus et le déclin de l'un correspond à la montée en puissance de l'exploitation de l'autre, ce que nous verrons dans un prochain cours, car je m'aperçois que j'ai déjà dépassé l'heure emporté par mon élan. La semaine prochaine, je ne ferai pas cours ici parce que je fais cours à l'université de Valencia, en Espagne, mais je reviendrai dans 15 jours pour approfondir la question des carrières impériales et pour aborder l'exploitation de l'or dans le Wadi Samout et le Wadi Umfawarir. Merci.